Beurre FM. Beurre FM. 18h, 19h, tour du monde avec Manuel Mariani.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous accueille dans une nouvelle étape du tour du monde. Chaque jour, comme vous le savez, maintenant, on vous emmène dans un nouveau pays à la découverte des traditions du tour et des recettes locales du Ramadan. Et aujourd'hui, nous allons dans un pays qu'on aime beaucoup, qui est la Syrie. Et pour parler de la cuisine syrienne, nous recevons quelqu'un qui est un habitué de la maison maintenant, c'est le chef Nabil Attar. Bonjour Nabil.
Bonjour à tous.
Alors nous avons également avec nous une autre Syrienne, mais alors qui n'est pas chef de cuisine, qui réside en Allemagne d'ailleurs, Rita Barish, qui est l'animatrice du blog et d'un groupe Facebook qui s'appelle Diaspora Cuisine.
Exactement.
Et qui est à destination des réfugiés syriens en Allemagne et qui les aide entre autres à se lancer éventuellement dans la restauration, dans la gastronomie, et puis aussi pour des petites choses toutes simples, à faire ses courses, etc., avoir la traduction des termes syriens de cuisine en allemand. Donc une activité d'utilité publique, on va dire.
C'est ça, exactement. Bonjour, Ramadan Karim.
D'accord, donc ça veut dire bon Ramadan en syrien.
Bon Ramadan en syrien.
Très bien. Et puis, donc, gros plateau aujourd'hui, parce qu'on a aussi Wadi Jriri, qu'on a déjà reçu sur Beurre FM. Wadi Jriri, donc l'atelier de la viande dans le 12e arrondissement de Paris, qui fait de la viande halal, mais avant tout bio, parce que c'est vrai que avant de faire de la viande halal, vous attachez à la qualité de la viande. Donc elle est bio avant d'être halal, j'ai envie de dire.
Exactement. Salam alaikum, bonjour à tout le monde. Bien sûr, l'objectif, c'est d'atteindre l'excellence en alliant les deux, le bio et le halal.
D'accord. Et donc vous avez aussi tous vos produits sont fermiers, les volailles, etc.
Exactement. On travaille exclusivement en bio ou en fermier. Le minimum de label, c'est le label rouge.
D'accord. Oui, qui est quand même déjà assez.
Qui est quand même un label très correct.
Ouais, qui est très correct et même d'ailleurs souvent plus exigeant que le label bio européen, je dirais. Qui est beaucoup moins contraignant que le label AB, agriculture biologique. Donc, comme je dis souvent, fiez-vous au label AB, agriculture biologique, et label bio français, plutôt qu'au label européen, bio européen, qui peut permettre à des produits un peu exotiques d'arriver avec le logo bio sans qu'il le soit vraiment, vraiment, au sens où on l'entend chez nous, en tous les cas en France.
Exactement.
Alors, si des auditeurs veulent poser des questions sur la cuisine syrienne, ou bien poser des questions sur la viande, d'avoir des conseils d'un vrai boucher sur la viande, quels morceaux utiliser, pour quelle utilisation, pour quel type de plat, comment la cuire, etc. Appelez-nous au 01 53 48 3000, je répète 01 53 48 3000, on vous répondra avec plaisir. Alors, Wadi, on va commencer un petit peu par vous. Avant de parler de la cuisine, on va parler de l'ingrédient. Est-ce que vous avez, pendant le Ramadan, vous sentez vraiment une hausse des ventes au niveau de la viande?
On sent que les gens qui viennent chercher de la viande, ils vont se faire plaisir.
D'accord.
Donc, vraiment, à ce moment-là, ce mois de l'année, sur toute la journée, on va se restreindre. Fin de journée, lorsqu'on va arriver et on présente une belle vitrine, on va avoir directement les clients qui vont se permettre de goûter des choses qu'ils ne goûtaient pas avant. Parce que là, ils sont sur l'envie.
D'accord. C'est comme la vitrine du boucher tradi à Noël.
Exactement. Ouais. Ils arrivent, normalement, quand ils arrivent, ils ont déjà peut-être mangé avant, lorsque ce n'est pas le Ramadan. Là, directement, ils arrivent et
ils commencent à manger avec. Ils font le tour avec les yeux, c'est ça?
À partir de 17h, ils commencent déjà à avoir envie de certaines choses, donc ils veulent tester. Et donc de là, oui, on voit qu'à cette période de l'année, on a déjà de plus en plus de clients et des personnes qui vont vouloir se faire plaisir et pourquoi pas acheter des choses qu'ils n'achetaient pas toute l'année.
D'accord, oui, donc des achats qui augmentent en volume, mais aussi en qualité et en gamme.
Ouais. Exactement, oui. Comme là, Bresse.
Oui, alors oui, ben justement, qu'est-ce qui se vend le mieux pendant le Ramadan et que vous vendez moins le restant de l'année? Chez le boucher tradi, on sait que le chapon, la dinde, etc., il y a un boom des ventes au moment de Noël. Alors, chez le boucher halal, mais bio, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche bien au moment du Ramadan, Wadi?
Alors déjà, ce qui marche et ce qui est important, je pense, pour toutes les boucheries en France, c'est que les clients, lorsqu'ils rentrent, ils partent pas sans au moins 500 grammes de viande hachée et de la viande pour shorba ou halala. Ça, c'est la base. D'accord. Ça, c'est la petite chose qu'ils vont prendre après. on va avoir des produits d'exception, des volailles d'exception, comme là actuellement je fais la volaille de Bresse.
D'accord.
Je sais que je propose le service de la faire cuire en rôtissoir. C'est des clients qui ont toujours un petit peu peur de la faire cuire, car ça reste une des meilleures volailles du monde. Donc ils n'hésitent pas à nous demander, et nous on leur fait la cuisson. Donc ils vont se faire plaisir par rapport à ça. Après, concernant le bœuf, ils aiment beaucoup tout ce qui va être morceaux maturés, des morceaux qui vont aller de 30 à 60 jours. C'est ce qu'on propose à l'atelier de la viande, pour pouvoir faire un repas ou une côte de bœuf. Et là, sachant que le temps nous le permet, il y a beaucoup de barbecue. Donc les gens vraiment vont sur les saucisses, les merguez, et aussi sur certaines préparations qu'on fait. Comme là, on a beaucoup de préparations marinées.
D'accord. Et alors, effectivement, oui, vous parlez de la cuisson, c'est très important, la cuisson. Et c'est vrai que si les gens ont des beaux produits, ils ont peur de les abîmer. Alors, nous, on rappelle souvent, par exemple, que pour une volaille, il faut ne pas hésiter à la sous-cuire un petit peu, puis à la laisser reposer après à couvert. Comme ça, elle va finir de cuire, elle ne sera pas sous-cuite, mais elle sera très moelleuse. On vous demande souvent des conseils, justement, de cuisson par rapport à un morceau spécifique.
Sans qu'on nous les demande à l'atelier de la viande.
Et vous le faites d'office.
D'office, c'est un service qu'on propose. On a des personnes qui se déplacent, qui sont exigeantes, ils veulent la qualité et le halal en même temps. Donc de là, nous, le service proposé, c'est de donner le temps de cuisson, donner des techniques aussi, et aussi des idées recettes. On a 3 livres de recettes qui sont disponibles, que les clients peuvent fêter à n'importe quel moment à la boucherie.
D'accord. Alors, si on peut imaginer que votre clientèle, elle vient déjà à 100% pour le bio, quel est le pourcentage de votre clientèle qui vient aussi pour le halal? Parce que vous êtes dans un quartier populaire, multiculturel.
Exactement.
Mais c'est vrai que votre boucherie n'affiche pas ostensiblement boucherie islamique, il n'y a pas les logos AVS partout, etc.
C'est sûr que j'ai pas mis du rouge.
Voilà, et donc du coup, c'est vrai que si on regarde pas dans les coins, vous êtes un boucher comme les autres, j'ai envie de dire.
Exactement, mais c'est ça, c'est le communautarisme qui nous a tous malheureusement porté préjudice. À ma boucherie, moi, 70% de mes clients, c'est des non-musulmans, parce qu'ils viennent chercher de la viande.
Avant tout, de la bonne viande.
De là, il n'y a aucun débat politique où on va venir chercher de la viande. Par la suite, il y a ma clientèle qui mange halal, et par-dessus tout, ceux qui vont manger AVS vont être contents de pouvoir allier les deux. Parce que pour moi, l'excellence, c'est de la viande halal avec la viande de qualité. Donc ça, c'est très important d'allier les deux.
D'accord.
Et de là, notre clientèle, tout le monde s'y retrouve.
Alors, je reviens à ma question de tout à l'heure. Quels sont les morceaux qui marchent le mieux en ce moment? Allez, on va faire un... On va faire le podium en bœuf, en agneau et en volaille.
Alors, en bœuf, ce qui va marcher le plus, là, actuellement, ça va être les morceaux marinés. Donc, nous, on va proposer beaucoup de beefsteak à l'échalote. On va proposer aussi des faux filets à l'échalote, des préparations ou le T-bone en bœuf.
Alors, le T-bone, pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce morceau, donc c'est une découpe qui permet d'avoir un morceau de filet et un morceau de faux filet sur la même... Sur le même morceau.
Exactement.
Avec un os en forme de T, le filet d'un côté, le faux filet de l'autre. C'est ce qui explique le nom de T-bone.
T-bone, la coupe à l'américaine.
C'est ça, voilà. Des steaks et la coupe des steakhouse.
Exactement. Donc pour le bœuf, après pour le veau, ça va être beaucoup de petites préparations, des rôtis Orlov ou la saucisse. Parce qu'on a une spécialité, c'est la saucisse.
Attendez, parce que le rôti Orlov, dans ma mémoire, il y a de la saucisse avec. Alors vous le faites avec de la saucisse halal, le rôti Orlov?
Exclusivement, Manu. Donc, le rôti Orlov, ça va être du veau avec lequel on va mettre une charcuterie.
Oui, il y a du fromage aussi, c'est
voilà.
Ça.
Donc tout simplement, donc, c'est une préparation.
C'est très bon ça, le rôti Orlov.
C'est très fondant et assez goûteux. Donc c'est l'avantage. On va souvent reprocher au veau de ne pas être goûteux, mais à l'avantage de le préparer avec des ingrédients tels un bon fromage que nous on va mettre à l'intérieur et aussi une charcuterie, ça permet d'avoir un bon repas à partager. Je sais que ça plaît beaucoup à cette période, beaucoup les week-ends.
D'accord. Alors si vous avez des questions à poser à nos invités, donc Nabil Attar, le boucher Wadi de l'atelier de la viande, et Rita Barige de Diaspora Cuisine, vous nous appelez au 01 53 48 3000. Je répète, 01 53 48 3000. Alors, autre question, est-ce qu'à Paris, vous avez beaucoup de clients qui vous commandent encore des moutons pour l'Aïd, ou est-ce qu'aujourd'hui on achète plutôt des découpes?
Alors, les personnes qui vont se déplacer dans notre boucherie de base, ils vont se renseigner un petit peu grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, sur Internet, grâce à des radios comme Beurre FM aussi. On entend parler des boucheries qui recherchent l'excellence dans le halal. Donc, ils sont avisés. ils savent que de base, on ne proposera pas un mouton qui va dépasser une année. On travaille l'agneau bio Poitou-Charentes. On va être maximum entre 4 à 6 mois. Ça va être des agneaux d'exception. C'est un acheteur qui va les préparer pour nous. Donc,
La provenance de vos agneaux, c'est quoi ?
Poitou-Charentes.
Poitou-Charentes, d'accord.
L'agneau bio Poitou-Charentes. On va avoir une clientèle. Il y a des personnes qui vont venir, qui vont nous demander des fois des moutons. Mais c'est des choses que chez moi, on ne fait pas.
D'accord. Alors, nous avons un auditeur qui nous appelle. Nous avons Sofiane de Grenoble. Bonjour Sofiane.
Oui, bonjour.
Bon, alors vous êtes restaurateur à Grenoble, c'est ça ?
Exactement, j'ai un steakhouse halal.
D'accord.
À Grenoble, je me suis lancé il n'y a pas longtemps dans le haut de gamme halal et bio aussi.
Et vous recherchez un fournisseur bio et halal, c'est
ça ? Malheureusement, dans notre région, on souffre beaucoup. On souffre énormément d'avoir ce genre de viande qualitative.
D'accord.
Du coup, on est amené à se déplacer à Lyon ou se faire livrer carrément de Paris.
D'accord.
Voilà, moi je voulais intervenir à l'émission car c'est vrai que j'ai un petit souci. J'espère que le boucher un peu avec plus d'expérience pourra me guider.
Ah, vous êtes tombé au bon endroit, Sofiane. Ah,
ouais, dans le halal, on a du mal à passer le savoir-faire de l'affinage et aussi un deuxième problème, la cuisson. On a une communauté plus consommatrice de viande bien cuite.
Trop cuite même.
Trop cuite. Alors on a beau leur expliquer qu'il faut pas dénaturer la viande, qu'il faut la manger plus ou moins à point, voire tenue. On essaye de faire passer le message et du coup on a l'impression qu'ils sont pas réceptifs et on se trouve à retrouver avec un produit abîmé, si j'ose dire.
Salam alaikum, bonjour Sofiane. Effectivement, c'est un gros problème qu'on va avoir, car de base, lorsqu'on va venir chercher une viande, on va nous demander est-ce que je peux avoir cette viande et si je la fais bien cuire, est-ce que c'est bon ? Bah, tout de suite, automatiquement, automatiquement, je vais répondre non au client, parce que ça va être une éducation. Avant, ils achetaient de la viande en gros. La viande en gros, des avants selon les qualités proposées, et ils faisaient cuire au maximum pour pouvoir enlever tout ce qui était bactéries, et c'était pour un côté d'hygiène. Après, il y a eu la génération qui est la nôtre, née, grandie en France, et qui mangeant dans les restaurants et qui apprécient les bonnes viandes. Donc de là, les habitudes ont commencé à changer.
Voilà, est-ce que maintenant, c'est vrai, la question se pose, est-ce qu'on est une communauté à marmite ? Parce que c'est vrai qu'on a toujours vu nos mamans cuire de la viande bien cuite. C'est vrai que c'est très, très difficile aujourd'hui de faire passer notre savoir-faire.
Le terme est bien trouvé, Sofiane, communauté à marmite.
Bah, la marmite, ça peut être très, très bon, bien sûr, mais ça va dépendre de chaque morceau et chaque destination culinaire. Mais de base, aujourd'hui, alhamdoulilah, on a de plus en plus de personnes qui ont un palais affiné. Des personnes sur Paris,
moi,
vraiment.
Je cuisine depuis déjà 18 ans, et aujourd'hui, quand les serveuses m'arrivent avec un tourneau d'eau bien cuit, je refuse. Je dis, je ne le fais pas. C'est simple, repartez du client, vous dites, il ne veut pas le faire.
Sofiane, est-ce que vous avez déjà essayé de proposer à vos clients de suivre vos conseils pour la cuisson ? Alors, peut-être pas en les brusquant dès le départ,
non,
en leur proposant de la viande bleue.
Ça, gentiment. Non, on essaie de.
Mais en leur proposant une viande entre saignante et à point, en leur disant, si ce n'est pas assez, je vous la recuis.
Oui, exactement. C'est qu'on joue toujours à ce jeu-là. Écoutez, essayez, prenez à point. Si toutefois ça ne vous plaît pas, ben écoutez, on fait cuire. Alors on essaie de expliquer c'est quoi la viande affinée, qu'il y a plus de temps, qu'on adapte l'humidité de la viande. Vous allez retrouver. C'est vrai que la couleur rose ou rouge, finalement, c'est la couleur de rose de la viande. Il ne faut pas avoir peur.
Oui, mais eux, ils voient ça plus comme du sang, alors que c'est plutôt du jus. Ouais. Wadi, est-ce qu'il n'y a pas.
Nous, on a grandi avec le fait que c'est du sang, alors que ce n'est pas du sang.
D'accord, oui. Wadi, est-ce que ce n'est pas justement dans l'esprit des consommateurs, le fait qu'on égorge les viandes pour enlever le sang ? Est-ce que le fait que quand ils voient une viande saignante, il y a du jus un petit peu rougeâtre qui sort ? Est-ce qu'ils ne font pas un amalgame entre le sang et le jus de la viande ?
Mais c'est exactement ça. Nous, le problème de base, c'est culturellement. De base, lorsqu'on va voir un petit peu de sang, tout de suite, on va dire que ça ne va pas, parce qu'on n'a pas eu l'habitude de voir du sang. Alors que, faut pas penser comme du sang, faut penser comme du jus. Et là, de là, le jus de la viande, à chaque fois, la viande est toujours plus appréciable.
Et le jus, c'est le goût, je le rappelle au passage.
Exactement, merci.
C'est pour ça que
dans la viande, le goût vient du jus et du gras, donc Si on dégraisse complètement une viande et qu'on la mange trop cuite, donc sans jus, elle n'a plus de goût.
Et elle est sèche. Et
elle est sèche. Voilà.
Elle est sèche, elle n'a pas de vitamines, elle n'a pas de goût. Finalement, on aura payé un steak à 20 euros pour rien.
Moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est un travail qu'on fait avec mon équipe à l'atelier de la viande.
C'est un combat permanent. Mais c'est vrai que des fois, on fléchit, on dit, on laisse tomber. On leur fait bien cuit, ils veulent manger bien cuit, on leur fait bien cuit.
Non, mais il faut continuer à se battre. C'est notre combat à nous de changer les habitudes.
On essaie de démocratiser ça et montrer que nous aussi, finalement, on sait manger. Et en fait, notre projet, c'est redonner toute la noblesse au ciel et dire demain que nous aussi, on sait manger.
Ok. Alors, Sofiane, on va devoir marquer une page de pub. Donc, tant qu'on y est, puisqu'on a quand même pas mal d'auditeurs à Grenoble et que vous y êtes, donnez l'adresse de votre restaurant. Notre directeur commercial n'entend pas, parce que lui, il la vend, la pub, habituellement, donc on va faire une exception. Hein.
Alors, nous, ça s'appelle Vieux Steakhouse. En fait, c'est un restaurant de viande, essentiellement de viande affinée et cuisson sur braise.
Alors, répétez le nom, parce que ça résonne un petit peu.
Le Vieux Steakhouse.
D'accord.
Voilà, on fait essentiellement de la viande affinée et de pure race. On fait de l'ovrac, un peu de Black Angus et de la Limousine.
D'accord, et donner l'adresse et le numéro de téléphone pour les auditeurs.
C'est sur les quais d'Hyder. On est exactement en face du consulat d'Algérie pour ceux qui veulent nous découvrir encore.
Ok, super. Eh bien, écoutez, Sofiane, merci de soutenir la bonne viande et merci de nous avoir appelés. On marque une courte pause et on se retrouve après, juste après, je parle à l'envers, c'est la chaleur, pour vous parler donc de la cuisine syrienne.
Tour du monde. Reviens dans un instant. Beurre FM. 18h-19h. Tour du monde avec Manuel Mariani.
De retour dans le Tour du monde. Aujourd'hui, on vous parle de cuisine syrienne avec Nabil Attar du restaurant Narenge à Orléans et également Rita Barish, également syrienne mais qui réside en Allemagne et qui est l'animatrice du blog et du groupe Diaspora Cuisine, mais également de viande avec Wadi Jriri de l'atelier de la viande à Paris 12e. Donc une boucherie bio et halal. Alors Nabil, donc on vous avait déjà reçu dans une émission sur la lentille. Vous nous aviez parlé de la place importante qu'a la lentille dans la cuisine syrienne. Mais par rapport à la cuisine du Ramadan, est-ce qu'il y a des plats qu'on cuisine plus souvent pendant le Ramadan que le reste de l'année?
Oui, tout à fait. Il y a des recettes qui sont disponibles. Par exemple, le fève, le feta. Il y a une recette, il s'appelle Daoud Bacha.
D'accord, c'est à base de quoi?
À base de boules de viande, de bœuf, et avec de la tomate, et un petit peu de pois chiche dedans, pois chiche, et du riz à côté, du riz avec cheveux d'ange.
Oui, d'accord. Alors, vous, Nabil, vous avez déjà commencé à ouvrir votre restaurant, parce que pour l'instant, vous êtes ouvert juste sur réservation avant de faire l'ouverture officielle. Mais juste précédemment, vous étiez au fourneau de la résidence du Refugee Food Festival, dont certains de nos auditeurs ont déjà entendu parler quand on vous avait reçu avec Marine Mandrila. Donc le Refugee Food Festival, en fait, vous êtes réfugié syrien. Vous êtes venu en 2015 en France, donc avec votre famille. Oui. Mais à la base, vous n'étiez pas du tout dans la cuisine. Vous étiez cadre dans une grande banque.
Okay.
Mais passionné de cuisine quand même, hein, d'après ce que j'ai compris. Et donc, vous arrivez en France, vous croisez la route du Refugee Food Festival. Oui. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé pour arriver jusqu'à aujourd'hui à l'ouverture d'un restaurant.
J'ai contacté le Refugee Food Festival, je me souviens, avril 2017. Je leur contactais, dire que je voudrais bien, je ne suis pas restaurateur, mais je fais la cuisine et c'est mon centre d'intérêt et je voudrais bien participer avec le Refugee Food Festival. Et j'ai bien participé trois fois, juin 2017. C'était le premier à la. J'ai ajouté mon menu avec dans le menu de restaurant et le deuxième participation. J'ai cuisiné tous les menus Et à la fin, c'était l'idée à inventer une nouvelle recette. C'était le jour de clôture.
D'accord. Et donc, vous avez ensuite cuisiné donc, pour la résidence du Refugee Food Festival, qui donc vous avez lancé
à
Grande Contrôle, donc qui est une grande halle à l'intérieur de laquelle il y a plusieurs c'est un ancien entrepôt SNCF dans lequel il y a des échoppes de street food,
mais de qualité
et où on peut connaître la cuisine de plusieurs pays. Et d'ailleurs, ce soir, on vous fera gagner un repas pour deux à la résidence du Refugee Food Festival. Donc le chef actuel, il est syrien comme vous. Oui. Il s'appelle Mohamed El Kadi. Il était traiteur à la base. Et puis, aujourd'hui, lui aussi, il collabore avec le Refugee Food Festival. Donc je vais poser la question. Si vous voulez gagner un repas pour deux à la résidence du Refugee Food Festival, la question, elle est très simple. C'est que nous avons eu un appel d'un auditeur qui venait d'une ville de province. Si le premier qui nous appelle et qui nous donne la bonne ville, il gagnera ce repas pour deux donc à la résidence du Refugee Food Festival, où il pourra goûter la cuisine syrienne de Mohamed El Kadi, mais là où effectivement notre invité Nabil Attar a cuisiné récemment. Donc 01 53 48 3000, je répète, 01 53 48 3000. Pour nous donner la ville de notre l'appel que nous avons eu tout à l'heure, le restaurant. Rita, vous êtes syrienne, vous êtes réfugiée également.
Suis réfugiée. Je suis venue en 2013 en Allemagne.
D'accord.
D'origine, je suis comme Nabil, je suis banquière.
D'accord, vous avez des parcours très similaires alors.
J'étais intéressée par, et je suis encore intéressée par la cuisine, c'est mon hobby. Et la cuisine m'a aidé beaucoup à alléger, le sentiment d'être seule à l'étranger.
La cuisine, c'est le lien. Quand on est loin de chez soi, ce qui peut raccrocher à son pays en premier, c'est l'alimentation quand même.
Exactement. Et ça, c'est l'idée du blog que j'ai lancé il y a 3 ans. Et maintenant qu'il réside plus que 14 000 Syriens dispersés au monde entier. Donc, ce sont des Syriens expatriés pour des raisons de la guerre ou d'autres raisons qui s'assemblent, qui partagent leurs recettes, qui se font la connaissance parce que la Syrie, bien qu'elle n'ait pas... Bien qu'il n'est pas un grand pays, mais les gens ne se connaissent pas.
D'accord. Alors Rita, on va revenir à vous dans un instant, mais on va prendre un appel, parce que Mehdi est en train d'exploser au standard. Là, tout le monde veut gagner un repas pour deux à la résidence du Refugee Food Festival. Donc, on va prendre Linda pour commencer. Bonjour Linda.
Salam alaikum, bonjour.
Salam alaikum, vous nous appelez d'où Linda?
D'Elancourt, dans le 78.
D'accord, vous êtes en région parisienne, donc vous pouvez facilement aller jusqu'à Grande Contrôle, à la résidence du Refugee Food Festival, pour goûter la cuisine syrienne. Donc.
C'est ça.
À condition que vous ayez la réponse, Linda, alors.
Oui, à condition.
Alors
pour moi,
je vous écoute.
C'est Grenoble.
Absolument, c'était bien ça. Donc,
yes.
Donc vous gagnez un repas pour deux à la résidence du Refugee Food Festival à Grande Contrôle. Donc on va donner l'adresse pour les autres auditeurs qui voudraient y aller aussi, comme vous, sauf que vous serez notre invité. Donc c'est du mercredi au dimanche à Grande Contrôle, la résidence du Refugee Food Festival, 81 rue du Charolais, à Paris 12e. Et tout à l'heure, nous serons au téléphone avec Marine Mandrila, qui est la présidente du Refugee Food Festival. Et nous parlerons un petit peu de la prochaine édition du Refugee Food Festival qui arrive après le Ramadan. Et puis de toutes les villes aussi, parce que c'est aujourd'hui un événement européen, de toutes les villes dans lesquelles le Refugee Food Festival existe. Alors, donc on en revient, Rita, à la cuisine du lien. Donc vous êtes syrienne aussi. Est-ce que le Ramadan en Syrie, c'est quelque chose qui se fait à la maison ou est-ce qu'on sort beaucoup? Parce qu'il y a une culture de la cuisine de rue, comme dans tous les pays du Levant. Il y a une grande culture de la cuisine de rue. Mais est-ce que pendant le Ramadan, on continue à sortir, manger dehors en famille ou est-ce qu'on fait ça plutôt à la maison?
Il y a les deux. D'accord. Il y a le Ramadan en famille, les invitations entre les familles, la deuxième, la première génération, les invitations d'Iftar. Et il y a également les sorties pour les soirées, pour des sahours. Il y a beaucoup aussi de cuisine. De street food, si vous voulez. Il y a des aliments, il y a des plats qui se préparent pas à la maison, qui se sont achetés comme les jus qu'on prend avant l'heure de l'iftar. En heure de l'iftar, il y a les des gâteaux spéciaux qui se vendent en ce moment-là, des plats, il y a les deux.
D'accord. Et Nabil, vous, est-ce que comment vous fêtez le Ramadan, comme vous êtes un peu déraciné? Bon, vous êtes parti en famille, mais du coup, est-ce que vous sortez un petit peu comme vous le faisiez en Syrie pour le iftar, ou vous restez plus à la maison?
Non, en France, on reste chez nous, mais en Syrie, le premier 10 jours, c'était avec la famille, la grande famille, les amis et comme ça. Mais à partir de par exemple, le 15 Ramadan, on y allait au restaurant. Mais le plus important, c'est le sahur. On sort pour avoir tous les gâteaux qui est que vendu à Ramadan, et il y a des jus qui on fait que au Ramadan aussi, et il y a toute l'ambiance de Ramadan dans le sahur, et c'est vraiment totalement c'est différent qu'à ici à France.
D'accord. Alors, vous parliez de pâtisserie, Nabil. Il y a la Syrie, il y a une grande culture de la pâtisserie en Syrie. Il y a des pâtisseries un peu plus spécifiques au Ramadan ou pas?
Oui, il y a beaucoup. Il y a des desserts qui étaient faits que pour Ramadan. Par exemple, il s'appelle Naïm. Naïm, c'est un sort de crêpe qui était séchée. Après, on les frite.
D'accord.
On met au-dessus.
La crêpe est cuite comment? Au four? C'est cuit sur un sage?
Sur un poêle.
Une poêle, d'accord.
Une poêle, ouais. Pour être avant colorer, et après on laisse sécher.
On laisse sécher, d'accord.
Après on les frite. Et après on met au-dessus sirop de la date.
Oui, d'accord. C'est mélasse de raisin.
Oui, alors il y a beaucoup de mélasse hein, dans le Levant, au Liban, etc. Au Liban, on cuisine beaucoup avec la mélasse de grenade. On avait reçu le chef Alan Jeham, qui lui est originaire du Liban, qui cuisine beaucoup avec la mélasse de grenade. Alors bon, c'est disons ses influences libanaises. Bon, maintenant il est étoilé Michelin à Paris, mais il garde toujours des petits ingrédients libanais, donc du Levant qu'on retrouve dans sa cuisine. C'est vrai qu'on aime quand même beaucoup le sucre dans la région. Hein.
Oui, ouais. Beaucoup de sucre au Ramadan, oui. Beaucoup, beaucoup de sucre, de dessert.
Et de la crème.
La crème aussi, alors quel type de crème?
Bon, c'est un type un peu spécial qu'on se trouve pas ici. Ça ressemble un peu à kaymak qu'on trouve dans les magasins turcs. C'est quand on prend la surface du lait. Et on cumule, des quantités de la surface pour qu'on ait une crème un peu épaisse, plus intense que la crème fraîche.
Sans fermentation, sans fermentation.
Oui, c'est sans fermentation, c'est frais, c'est 100% frais, et avec laquelle on fait des plats avec du feuille de brique, des pâtes, oui, warbat boshta, des wardat, nahesh, qui sont à la base des feuilles de briques avec, avec de beurre et sirop de sucre.
D'accord. Ouais, Wadi, vous avez de la clientèle, vous avez des Syriens dans votre clientèle ou des gens d'origine syrienne?
Je ne sais pas, je ne demande pas les nationalités.
Vous ne demandez pas les passeports. Il n'y a pas besoin de visa pour aller à l'atelier de la viande.
Il n'y a pas de contrôle et ce n'est pas écrit sur leur tête.
Non, mais bon, c'est vrai que les commerçants discutent souvent avec leurs clients.
C'est vrai, c'est vrai. Alors, oui, je vois un peu quelques personnes, mais...
Mais c'était pour savoir justement s'ils avaient des habitudes au niveau de ce qu'ils consomment et de ce qu'ils vous achètent qui sont un petit peu spécifiques.
Ça, c'est sur tous les Syriens.
C'était la finalité de ma question. Je ne faisais pas de recensement
pas de problème, monsieur
ethnique.
Pas de problème. Je sais que j'ai une clientèle syrienne, j'ai une clientèle aussi libanaise. Je veux dire, tout ce coin-là, ils me demandent beaucoup l'agneau haché. Mmh. L'agneau haché, je sais que pour pouvoir faire les boulettes et pour faire leur préparation, c'est la base. Donc pendant le ramadan, ils peuvent partir sur des 2 kilos d'agneau haché. Et ça, je sais que de base, c'est un produit qui plaît tout le temps. Mmh.
Alors ça, l'agneau haché, oui, Nabil, ça se fait beaucoup en brochette, non, c'est ça?
Oui,
mais pas seulement.
Oui,
ouais.
Oui. Et j'ai une question pour vous. Le goût de l'agneau, ça change beaucoup de la race.
Oui.
On a en Syrie, à
oui,
Irak...
Il y a une race spéciale en Syrie.
Oui, une race oui. spéciale, il s'appelle Awas. Le goût, c'est totalement différent. On voudrait parler après le...
Alors, on va parler de la race de cet agneau, oui, qui a des grosses fesses, hein,
oui,
Nabil,
oui,
vous nous aviez dit. Donc, pour ne pas dire autre chose, donc c'est un agneau qui a un goût particulier de par sa race et de par sa configuration. On en parle juste après une courte pause. Si vous avez des questions à poser à nos invités, vous nous appelez au 01 53 48 3000. Je répète, 01 53 48 3000. À tout de suite dans le Tour du Monde.
Tour du Monde.
Tour du Monde.
Tour du Monde. Reviens dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h, Tour du Monde avec Manuel Mariani.
De retour dans le Tour du Monde, aujourd'hui on parle de cuisine syrienne avec nos invités Nabil Attar du restaurant Narenj à Orléans, Rita Barish, syrienne également mais qui réside en Allemagne, qui anime le groupe et le blog Diaspora Cuisine, et notre ami Wadi Jriri de l'atelier de la viande à Paris 12e. On vous redonnera toutes les adresses détaillées de nos invités en fin d'émission. Mais pour le moment, on a une auditrice qui a une question. Nora est avec nous. Bonjour Nora.
Bonjour à tous. Alors, j'avais
comment allez-vous Nora?
Je vais bien, merci.
Vous nous appelez d'où, dites-moi.
J'appelle de Saint-Quentin-en-Yvelines dans le 78.
D'accord.
Voilà, j'avais une petite question. Donc, j'entends que ça parle de la cuisine syrienne.
Absolument.
Et je voulais simplement savoir s'il y a des restaurants syriens en région parisienne. Parce que j'en ai jamais entendu parler et au vu des recettes que vous donnez, ça vous a
ouvert l'appétit, ça vous a aiguisé le palais. Alors, Nabil, bon, vous êtes en France depuis très longtemps, donc est-ce que malgré tout vous avez pu goûter des restaurants de la cuisine de certains restaurants syriens à Paris ou pas?
Non, malheureusement.
Non.
Pas,
non. Puis en plus vous cuisinez bien, donc en général vous faites ça vous-même. Bon, écoutez, Nora, moi, je vais vous donner quand même des adresses de restaurants syriens que je connais bien. Par contre, ils seront plutôt sur Paris, parce que je vous avouerai que moi, je suis plus spécialiste de Paris intramuros que de la région parisienne.
D'accord.
Mais bon, à 50 ans en Yvelines, vous n'êtes pas si loin que ça.
Oui, ça va.
Je vais vous en donner... on a Rita qui va nous donner une adresse aussi. Alors...
J'ai une adresse qui est spécialiste en shawarma.
D'accord.
Qui
D'accord.
est la grecque syrienne. Je vous conseillais d'aller chez Chamiat à Châtelet, rue Saint-Martin.
Oui, c'est 79 rue Saint-Martin. Oui, je connais ça. Très bien parce que c'est juste à côté de chez moi.
D'accord.
Donc, je connais bien,
ils sont très accueillants. C'est à recommander. Je vous recommande de...
C'est le vrai shawarma.
Oui, c'est le vrai shawarma. C'est,
voilà. Et ils font des manouchés aussi, hein, c'est ça? Non.
Je ne suis pas sûre, mais ils font des falafels. Mais leur spécialité, c'est des shawarmas.
Très bien, écoutez...
Alors, c'est une bonne adresse. Je vais vous en donner deux autres, Nora, si vous voulez.
D'accord.
Oui, alors, vous avez la Rose de Damas, hein, qui est un très bon restaurant syrien, qui est au
D'accord.
6 boulevard Saint-Germain, dans le 5e oui. arrondissement à Paris. Je vais vous donner aussi le Daily syrien. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, Bah non, a priori non, puisque vous nous appelez pour avoir des adresses.
Oui,
donc c'est 55 rue du Faubourg Saint-Denis à Paris 10e, le Daily Syrien. Et puis je vous en donne un dernier parce que je l'aime bien aussi, c'est le Damaskino qui est 103 rue. Ouais, Damaskino.
Ah, c'est le bar.
Ouais, c'est ça.
Oui, je
c'est un
dire,
bar à Médée.
Oui.
Pardon. Alors Damaskino, Damasquino, et c'est au 103 rue Saint-Maur. À
d'accord.
Paris 1er. Mais alors, si vous allez dans un restaurant syrien pendant le ramadan, je vous conseille d'aller au Daily Syrien parce qu'ils sont ouverts assez tard et il y a une
d'accord.
super ambiance pendant le ramadan. Et puis pendant le restant de l'année, vous pouvez. Alors, Nabil a quelque chose à dire.
Il y a la résidence aussi.
Oui, et donc, évidemment, je vais vous redonner, mais ça, c'est jusqu'au 16 parce qu'après, on passera à la cuisine géorgienne.
Oui.
Donc, je vous conseille également, j'en ai parlé tout à l'heure dans l'émission, vous avez dû entendre. Là, et puis notre auditrice Linda a gagné également un repas pour deux à la résidence. C'est la résidence du Refugee Food Festival. Ça se trouve à Ground Control. Ground Control, c'est une grande halle street food, mais pas que, qui se trouve
d'accord.
dans le 12e arrondissement à Paris, au 81 rue du Charolais.
D'accord.
Et là aussi, c'est très sympa. C'est juste à côté de la gare de Lyon.
Bon, bah ça va, il y en a pas mal. Je pensais que c'était très, très rare, mais en fait, vous m'avez donné pas mal d'adresses.
Ah, mais on est là pour ça, Nora. Quand vous savez pas, quand vous savez pas avec ça se mange, vous m'appelez.
D'accord. Bah, j'ai pas entendu le tout début d'émission parce que justement j'étais au travail donc j'ai pas pu tout entendre. Par contre, je suis une auditrice, hein, j'aime beaucoup votre émission.
Ah bah merci beaucoup.
Et donc je suis peut-être hors sujet, mais la semaine dernière vous avez parlé d'une recette avec le chef voilà de tomates.
Oui, le concentré de tomates, non, c'est pas ça?
Voilà, c'est ça. Et le ketchup pour mes filles qui adorent le ketchup et j'aurais aimé. Enfin, savoir déjà si vous en avez parlé ou pas.
Alors, oui, effectivement, mais je vais même vous faire un cadeau. C'est le chef voilà qui vous fait le cadeau. Vous allez sur la page YouTube de Beurre FM et vous avez la fameuse recette de la sauce tomate, du ketchup et du concentré de tomate du chef voilà en image, en vidéo.
Ah, super.
Vous aurez même la tête du chef voilà en prime.
Bon bah très bien. Non parce que j'ai mes filles qui adorent le ketchup et je sais que c'est pas quelque chose qui est super bon pour la santé.
Ouais mais celui du chef voilà il y a que de la tomate et du miel donc.
Voilà donc ok très bien. Bah super je vais regarder. Je dois taper quoi sur YouTube?
Sur YouTube vous tapez Beurre FM en deux mots BEUR loin FM et ça va vous proposer en premier la page YouTube de Beurre FM. Sinon vous allez sur notre site beurrefm.net. qui bat d'ailleurs des records de fréquentation, donc on remercie les auditeurs. Et sur la page de Beurre FM, sur le site internet de Beurre FM, vous avez le lien vers la page YouTube, Nora.
Super.
Merci de votre fidélité en tous les cas.
Merci énormément.
À très bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Alors donc, on vous parlait de la résidence du Refugee Food Festival et nous avons justement en ligne avec nous Marine Mandrila. Bonjour Marine.
Bonjour à tous.
Comment allez-vous?
Très bien, et vous-même?
Très très bien. Écoutez, on est en. Alors déjà, on vous remercie d'avoir offert à nos auditeurs un repas pour deux à la résidence du Refugee Food Festival. Donc c'est Linda qui a gagné ce repas pour deux et donc on remettra en jeu tout à l'heure dans l'émission En attendant l'ADEN à nouveau. Donc pour les déçus qui n'ont pas pu appeler assez vite pour gagner ce repas pour deux à la résidence du Refugee Food Festival. Donc cuisine syrienne jusqu'au 16 et on passe à la cuisine géorgienne après, c'est ça. Hein.
Exactement,
voilà.
Après, donc, on accueille Magda, qui est une chef géorgienne.
Très bien. Alors, cuisine très différente de la cuisine syrienne, mais délicieuse aussi. On remettra en jeu tout à l'heure un repas pour deux dans l'émission vers 21h30. Prenez l'antenne vers 21h30 pour un autre repas pour deux à la résidence du Refugee Food Festival. Alors, Marine, je crois que vous êtes en pleine préparation. Alors, j'expliquais tout à l'heure dans l'émission que vous aviez rencontré Nabil justement dans le cadre du Refugee Food Festival. Et c'est une manifestation qui n'est pas seulement française, mais qui est européenne.
Absolument, c'est un projet qui est né à Paris en juin 2016. Parce
d'accord.
que le 20 juin, c'est la journée mondiale des réfugiés. Donc c'est né à Paris et ça s'est développé l'année dernière dans 11 villes d'Europe. 5 villes françaises, donc à Lyon, Marseille, Lille, Strasbourg et Lyon. Et la première année à San Francisco, New York et Cape Town en Afrique du Sud.
Ah oui, là c'est même plus européen, vous êtes international maintenant.
Oui, mais surtout c'est ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est développé par des citoyens de ces villes-là qui nous contactent et qui s'engagent bénévolement pour développer ce projet solidaire dans leur ville.
D'accord, vous avez fait des émules en fait, vous êtes devenu pratiquement une marque, vous franchisez votre bonne action à l'international, en fait.
En tout cas, on permet effectivement à des citoyens qui ont envie de s'engager. On a développé une série d'outils, toute une méthodologie avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, qui nous accompagne beaucoup dans le développement du Refugees Festival.
D'accord.
Et l'objectif, c'est vraiment de créer des rencontres, de faire évoluer les regards sur les personnes réfugiées grâce à la cuisine, qui est la seule chose qu'on partage tous. Et l'objectif, c'est aussi de pouvoir essayer d'accompagner des cuisiniers réfugiés comme Nabil ou des personnes qui sont en reconversion, qui sont passionnées de cuisine et qui ont choisi la restauration comme levier d'insertion.
D'accord. Alors, je précise aux auditeurs qui nous écoutent, comme nous sommes en plein mois de Ramadan, que si vous allez manger au Refugee Food Festival, vous contribuez à une bonne œuvre pour les réfugiés en France, et donc c'est une forme. J'ai demandé la validation de l'imam Abdelali Mamoun tout à l'heure, et du coup ça compte pour la Sadaka, donc vous pouvez faire une bonne action en allant manger au Refugee Food Festival. Alors, on devait demander à Nabil une recette syrienne. Malheureusement, on est un petit peu pris par le temps, parce que les émissions passent très vite, très vite pendant le Ramadan. Du coup, Nabil me transmettra sa recette et vous l'aurez sur le site internet de Beurre FM. Vous serez prévenu sur les réseaux sociaux. On mettra la recette de Nabil en ligne sur le site internet, ainsi qu'une recette de Rita. On va rappeler donc nos invités et leurs adresses respectives. Donc Nabil Attar, cuisinier syrien. Le restaurant Narenge à Orléans, alors qui pour le moment n'est ouvert que sur réservation. Nabil, vous êtes en pré-ouverture.
Oui, pré-ouverture.
Ok. Soir. Donc, le restaurant Narenge à Orléans, c'est 178 rue de Bourgogne, 45 000 Orléans. Et pour le moment, c'est uniquement sur réservation, midi et soir. Vous appelez au 07 68 07 34 43, je répète. 07 68 07 34 43. On répète à nouveau l'adresse de la résidence du Refugee Food Festival également à Grande Contrôle, du mercredi au dimanche, 81 rue de Charolais, Paris 12e, métro Gare de Lyon ou Rueil Diderot. Et n'hésitez pas à revenir sur l'antenne de Beurre FM tout à l'heure vers 21h30, juste avant l'ADEN, pour gagner à nouveau un repas pour deux à la résidence du Refugee Food Festival. Vous aurez peut-être la chance d'y voir Marine, qui est toujours souriante et qui est adorable. Et
je précise aussi que le Refugee Food Festival aura lieu à Paris dans 10 restaurants parisiens.
C'est
entre
ça,
le 15 et le 24 juin.
Voilà, juste après le Ramadan. Mais nous, on aura l'occasion de le rappeler en détail dès qu'on aura reçu les infos. J'imagine que vous êtes en train de travailler là-dessus.
Exactement. Voilà.
D'où votre. C'est pour ça qu'on vous remercie d'autant plus d'être avec nous, parce que je sais que vous avez beaucoup de travail en ce moment. C'est également le cas de Wadi Jriri, de l'atelier de la viande, qui a beaucoup de travail pendant la période de Ramadan, puisque, comme il le disait, c'est une période très faste où les gens se font plaisir, achètent de la bonne viande. Donc, l'atelier de la viande qui fait de la viande bio avant tout, et c'est la cerise sur le gâteau. Halal également, 77 rue Claude Decamp dans le 12e arrondissement à Paris, je répète, l'atelier de la viande, 77 rue Claude Decamp à Paris 12e. Vous êtes fermé uniquement le dimanche après-midi ?
Exactement, le dimanche après-midi.
Esclave de la viande.
Il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de travail.
Très bien, et si vous voulez passer des commandes spécifiques à Wadi, vous appelez le 01 73 75 87. Je répète, 01 73 75 87 48. Revenez vers 21h30 pour gagner de nouveau un repas pour deux à la résidence du Refugee Food Festival. Le chef en ce moment, il est syrien également, c'est Mohamed El Kadi. Et donc, nous allons laisser la place maintenant à Philippe Robichon pour un nouveau volet de l'émission Ramadan & Co. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve demain pour une nouvelle destination dans le Tour du Monde.
Retrouvez Tour du Monde tous les jours de 18h à 19h sur Beurre FM.